VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manela Kiza, la présentation de cette édition du mercredi 9 février 2022. Voici d'abord le sommaire. Au Burkina Faso, le nouveau chef d'état-major de l'armée promet un souffle nouveau dans la lutte anti-djihadiste. La junte malienne a entamé des discussions avec la CDAO qui a pris de lourdes sanctions contre le Mali. Guerre du Congo, après plusieurs années de procédure, la Cour internationale de justice ordonne à l'Ouganda de verser 325 millions de dollars à la RDC. Le chancelier allemand salue les progrès en vue d'une désescalade de la crise entre Moscou et Kiev. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, les nouvelles du monde. Au Burkina Faso, le nouveau chef d'état-major de l'armée, le colonel-major David Kabré, nommé la semaine dernière, a promis un nouveau souffle dans la lutte contre le terrorisme lors d'une cérémonie de prise de commandement aujourd'hui. Nathalie Barge.
Le colonel David Kabré, ancien ministre des Sports, devenant le 20e chef d'état-major de l'armée burkinabé, a été nommé le 4 février en remplacement du général Gilbert Ouédraogo, dont le départ avait été réclamé par les soldats lors de la mutinerie du 23 janvier, qui a abouti à un coup d'état le lendemain. Monsieur Kabré a souligné que sa prise de commandement intervient dans un contexte sécuritaire fortement dégradé, marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans plusieurs zones du pays. Il a affirmé n'avoir aucune autre option que la réussite dans la restauration de l'intégrité du territoire. Le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a ordonné vendredi la création d'un centre de commandement des opérations au plan national. Le colonel Kabré a promis de développer des mécanismes précis de planification, de conduite et de coordination des opérations en réorientant les actions vers l'offensive avec le commandement des opérations du théâtre national. Le Burkina Faso est depuis 7 ans dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes qui ont fait plus de 2000 morts et 1,5 million de déplacés.
La procédure contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987, ne vaut rien à l'absence de gouvernement au Burkina Faso depuis le putsch militaire du 24 janvier, a estimé aujourd'hui l'avocat de M. Compaoré. La veille mardi, le parquet militaire a requis 30 ans de prison ferme à l'encontre de M. Compaoré, pour attentat à la sûreté de l'État, recel de cadavres et complicité d'assassinat. Ce 9 février marque le mois de la prise des sanctions contre le Mali par la CDAO et l'UMOA contre le Mali, reprochant aux autorités de transition de ne pas avoir tenu leurs engagements quant à l'organisation d'élections. Si les négociations n'ont jamais cessé en coulisses, ce mercredi, le gouvernement malien, à travers un communiqué, a annoncé la mise en place d'un mécanisme composé des différentes parties prenantes en vue de trouver une solution consensuelle. Mohamed Danyoko nous fait le point.
Dans le cadre du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale concernant la conduite de la transition, le gouvernement malien a publié aujourd'hui un communiqué informant de la mise en place d'un mécanisme de concertation. Ce mécanisme a pour but, selon le communiqué, de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale sur l'adoption d'un chronogramme consensuel. Ce mécanisme est composé de deux groupes que sont le groupe de dialogue au niveau ministériel et le groupe de travail élargi. Le premier groupe, composé du Ghana, de la Mauritanie, du Nigeria, du Sénégal, du Sierra Leone, du Togo et de la CEDEAO, doit faciliter la médiation entre les parties pour trouver un compromis. Ce groupe est coordonné par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Le deuxième groupe, qui est composé du gouvernement du Mali, du comité de suivi local de la transition, de l'Union africaine, du Ghana et du Nigeria et d'experts, doit faire l'évaluation technique du projet de chronogramme de la transition présenté par la CEDEAO. Si le premier groupe s'est réuni le 31 janvier dernier, le deuxième groupe s'est réuni hier mardi sous la présidence du ministre de l'administration territoriale. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
La Cour internationale de justice ordonne à l'Ouganda de payer 325 millions de dollars à la RDC, en deçà du montant que réclamait Kinshasa. C'est en guise de réparation pour l'invasion de l'Est congolais lors de la guerre de 1998-2003, le point avec Abdulrahman Dia.
La plus haute juridiction de l'ONU a estimé que l'Ouganda devait verser à la RDC 225 millions de dollars pour les pertes en vies humaines, 40 millions de dollars pour les destructions de biens et 60 millions de dollars pour les dommages aux ressources naturelles. Kinshasa réclamait plus de 11 milliards de dollars, un montant qualifié d'exorbitant par Kampala. Ce bras de fer judiciaire oppose les deux pays depuis des années. La Cour, basée à La Haye, a déjà statué en 2005 que l'Ouganda devait payer des réparations pour avoir envoyé la RDC pendant la Deuxième Guerre du Congo, qui a duré de 1998 à 2003. Les guerres qui ont dévasté le Congo entre 1996 et 2003 ont fait plusieurs centaines de milliers de morts. L'armée ougandaise est aujourd'hui de retour dans l'est du Congo, en Ituri, région où elle mène une offensive conjointe avec l'armée congolaise contre les rebelles ougandais ADF, présentés par le groupe État islamique comme sa branche en Afrique centrale.
En Tunisie, Human Rights Watch a dénoncé mercredi des assignations à résidence imposées comme étant en réalité des détentions secrètes sous couvert d'état d'urgence. L'ONG a affirmé que les cas de violation se sont multipliés depuis le coup de force du président Kais Saied le 25 juillet. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Human Rights Watch a épinglé le régime de Tunis pour les cas de l'ex-ministre de la Justice et numéro 2 du parti Ennahda, Nourdine Biri, et de Fethi Baldi, cadre dirigeant de ce parti. Plus d'un mois depuis leur placement en détention, ni Baldi ni Biri n'ont reçu de notification écrite de leur assignation à résidence, a fustigé Human Rights Watch, ajoutant qu'aucun mandat d'arrêt n'a été émis et les autorités n'ont divulgué aucune accusation formelle contre eux. L'ONG dénonce deux autres assignations à résidence avec arrestation et mise au secret, justifiées par le ministère de l'Intérieur par des soupçons de graves menaces pour la sécurité publique. Les mesures d'exception sont utilisées de manière abusive et sans contrôle judiciaire et font ressurgir le spectre des détentions secrètes, a dénoncé Salsabil Chilali, responsable de Human Rights pour la Tunisie. Seules les familles des détenus sont autorisées à leur rendre visite sous supervision policière, une situation déjà dénoncée par l'instance de prévention de la torture, un organe indépendant de contrôle des détentions.
Le bilan humain du cyclone Batsirai qui a quitté Madagascar lundi est passé à 80 morts selon un décompte actualisé des autorités et pourrait s'alourdir alors que des corps continuent à être retrouvés dans les décombres de maisons effondrées. Ce matin, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes recense aussi plus de 94 000 sinistrés et près de 60 000 déplacés, alors que de nombreuses ONG et agences de l'ONU ont commencé à déployer des ressources et des équipes pour venir en aide aux victimes de ces pluies diluviennes et vents extrêmement forts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé mercredi en Australie pour rencontrer ses alliés dans la région Asie-Pacifique afin de consolider leur partenariat. Le secrétaire d'État participera à deux jours de rencontres du Quad, l'alliance des États-Unis avec l'Australie, l'Inde et le Japon, espérant renforcer ce qu'il souhaite voir devenir un rempart contre les volontés de domination économique et militaire de la Chine. Le chancelier allemand Olaf Scholz salue les progrès en vue d'une désescalade de la crise entre Moscou et Kiev après les intenses efforts diplomatiques menés ces derniers jours. Jacques Aristide.
Le dirigeant allemand, critiqué pour sa discrétion et une supposée complaisance à l'égard de Moscou, est désormais sur tous les fronts, avec une visite rendue lundi au président américain Joe Biden, avant des déplacements à Kiev et Moscou la semaine prochaine. À Berlin aujourd'hui, Olaf Scholz indique que la mission est d'assurer la sécurité en Europe. Il dit croire que les dirigeants y parviendront. Interrogé sur le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie et l'Allemagne, et pourrait faire partie de sanctions sanctions en cas d'invasion de l'Ukraine, le chancelier allemand n'a pas voulu entrer dans les détails d'une éventuelle riposte. Olaf Scholz a pris le relais du chef de l'État français Emmanuel Macron, dont l'engagement diplomatique semble porter de premiers résultats, Kiev et Moscou évoquant des signaux positifs. L'Ukraine a salué aujourd'hui de vraies chances de désescalade de la crise. Quant aux humanitaires, ils affirment qu'ils seront dans l'incapacité de répondre aux besoins si une guerre devait éclater entre l'Ukraine et la Russie, qui continue de démentir tout projet d'invasion.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez Rosine Monet Zéro pour la Minute Éco.
Après le ralentissement causé par la COVID-19 en 2020, la croissance ivoirienne s'est à nouveau inscrite dans une dynamique à la hausse depuis 2021, rapporte l'agence Ecofin. Le Fonds monétaire international prévoit que la croissance économique restera robuste cette année. Selon le FMI, la mise en œuvre d'un programme de réformes solide dans le cadre du Plan national de développement et la découverte en 2021 de réserves supplémentaires de pétrole et de gaz pourraient soutenir cette croissance. L'Union européenne va développer un partenariat vert avec le Maroc afin de renforcer la coopération énergétique et lutter contre le réchauffement climatique, a déclaré mercredi à Rabat la présidente de la Commission européenne. L'accord prévoit l'application de tarifs préférentiels aux produits exportés et stipule que ces derniers bénéficient de préférences commerciales. Pour Rabat, la partie la plus importante de ce partenariat a trait à l'exportation de ses produits agricoles vers l'Union européenne. Le Japon a annoncé mercredi qu'il allait livrer à l'Europe certaines de ses importations de gaz naturel liquéfié face au risque de perturbation de l'approvisionnement de la région en gaz russe en cas d'escalade des tensions concernant l'Ukraine. Le ministre n'a cependant pas précisé les volumes qui seront fournis et vendus en Europe au prix du marché. Il a plutôt souligné que l'importance de ces livraisons était conditionnée au fait que le Japon soit d'abord lui-même suffisamment servi.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les champions d'Afrique ont été récompensés par leur pays. Le président Macky Sall a reçu hier les lions de la Teranga au palais présidentiel. Il leur a témoigné la reconnaissance de la nation tout entière pour leur victoire finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Comme Sadio Mané, plus de 60 membres de l'expédition sénégalaise au Cameroun ont été décorés dans l'ordre national du Lion par le président Macky Sall. Ceux qui avaient déjà été distingués par le passé y ont été élevés en grade. Joueurs et membres de la délégation recevront en plus une prime de 50 millions de francs CFA chacun, un terrain de 200 mètres carrés à Dakar et un autre de 500 mètres carrés dans la ville nouvelle de Diamia Dio. Macky Sall, président du Sénégal.
Vous nous avez rendu fiers en faisant résonner le nom du Sénégal aux quatre coins de la planète. Vous avez honoré la nation. En retour, la nation dont vous êtes si fier vous doit des honneurs.
Écoutons à présent Kalidou Koulibaly, le capitaine du Sénégal.
Désormais, à la place du cœur, nous avons tous une carte du Sénégal estampillée, un peuple, un but, une foi. Et bien sûr, une étoile trônant au-dessus de celle de champion d'Afrique. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ceci était notre slogan tout au long de la compétition.
Le Sénégal, premier du continent au classement FIFA et grand fournisseur de talents à l'étranger, rêve d'autres lendemains glorieux. Macky Sall a le regard tourné désormais vers le Mondial 2022 au Qatar à la fin de l'année. S'adressant au coach Aliou Cissé, il a lancé « Aliou, je ne vous demande pas de gagner la Coupe du Monde, mais une place en demi-finale ». Le Sénégal devra d'abord se qualifier et cela passera par un barrage fin mars, encore contre l'Égypte. Le 9e jeu de la francophonie, initialement prévu cette année en République démocratique du Congo, sont reportés à 2023, annonce l'Organisation internationale de la francophonie. La RDC, désignée en 2019, devait organiser ces jeux en 2021 avant que la pandémie n'oblige à un report à 2022, puis désormais à 2023, selon la recommandation de l'organisation. La précédente édition, tenue en Côte d'Ivoire en 2017, avait réuni pendant 10 jours près de 3500 participants, dont 2500 jeunes athlètes et artistes venus de 53 pays. L'OIF a par ailleurs suspendu le Burkina Faso des instances de la francophonie après le coup d'état militaire du 24 janvier.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le nouveau chef d'état-major de l'armée, le colonel-major David Kabré, promet un souffle nouveau dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays en proie à des violences djihadistes depuis 2015. 20e chef d'état-major de l'armée burkinabé, le colonel Kabré, 54 ans, a ordonné la création d'un centre de commandement des opérations du théâtre national, premier du genre dans le pays. Il a promis des opérations militaires orientées. Il a promis des opérations militaires orientées vers l'offensive dans la lutte contre les terroristes. De belles initiatives, selon Mahamoudou Savadogo, chercheur en sécurité, joint à Ouagadougou par Yacouba Ouédraogo.
Je pense que c'est une très bonne initiative. Un centre et un commandement des opérations allie un peu au déficit du commandement et qui va organiser les grandes forces ensemble dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Donc, cette coordination était nécessaire parce qu'il manquait de coordination et étant donné que les moyens et les hommes sont limités sur le terrain, ça va permettre d'optimiser les moyens matériels.
Le colonel David Kabré parle également d'action militaire orientée désormais vers l'offensive. Pensez-vous que la solution soit d'aller chercher les terroristes là dans leur retranchement?
Oui, tout ça, on a expérimenté la première solution qui était la défensive. Je pense que l'autre solution qui est l'offensive est une des solutions les mieux adaptées dans cette lutte contre le terrorisme. Parce que non seulement, puisque que nous avons une stratégie, c'est parce qu'il faut aussi que les services de renseignement fonctionnent à outrance, doivent être effectivement de localiser et de détecter les groupes armés terroristes.
Il a appelé à l'unité de toutes les composantes de l'armée autour de son idéal. Il parle de souffle nouveau dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il faut comprendre que l'armée n'est pas totalement unifiée?
Oui, ce n'est pas un secret qu'il y avait quelques problèmes, parce qu'on avait un problème de génération. On avait ce même identité qui ne s'entend pas. Et donc, c'est tout ça qu'il va falloir étudier et faire en sorte que chaque arme soit orientée vers les résultats, c'est-à-dire vers la lutte contre l'insécurité et vers la lutte contre le terrorisme. Et c'est de ça qu'il s'agit, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, de faire en sorte que les bagarres internes, les conflits internes soient aplanis et pour orienter vers des résultats concrets. Le bien-être de la population de.
Et justement, le colonel David Kabré est le 20e chef d'état-major général des armées burkinabées. Roch en a changé plusieurs sous sa présidence, de même que des ministres de la Défense. Pensez-vous que ces approches des militaires jusque-là rassurent dans la lutte contre le terrorisme?
Oui, on voit qu'il a pris des mesures, il s'approche à petit pas avec la mise en place des institutions. Et donc, on voit qu'il. Il s'agit un peu au problème situé qui connaissait l'armée, qui connaissait aussi l'appareil sécuritaire. Et je pense que cette approche stratégique est la meilleure pour mieux appréhender le problème et mieux apporter les résultats avant effectivement d'entamer concrètement la lutte opérationnelle. Je pense que c'est un homme qui est d'appareil qui doit être mis en place pour permettre d'atteindre les objectifs.
Mahamoudou Savadogo, chercheur en sécurité, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Côte d'Ivoire, de nombreuses filles pleines d'ambition sont souvent bloquées par une grossesse survenue pendant qu'elles sont encore très jeunes. Déscolarisation, rejet de la famille et regard méprisant de la société sont les déboires de ces jeunes filles mères. Le reportage de Aïcha Diarra.
Elle a le L'une d'entre elles vient de confectionner son tout premier sac à main. C'est un exploit parce qu'elle est apprentie couturière. Nous sommes au centre Pro Kids qui a décidé d'accompagner les jeunes filles mères et célibataires. Aïcha Traoré en est la responsable.
Et notre vision, c'est de créer cette industrie où on a tout. On en a qui veulent faire de la checker, on va les accompagner. On veut créer une industrie de femmes fortes qui se sont relevées et qui refusent de se limiter, qui rêvent. On veut réaliser le rêve de ces filles avec elles pour toujours l'objectif que l'enfant puisse avoir un meilleur environnement éducatif.
Elles sont âgées de 14 à 20 ans pour la plupart et chacune a une histoire particulière. Tizier Grassentich a contracté sa grossesse à l'âge de 15 ans quand elle était en classe de 5e. Le père n'a pas voulu reconnaître l'enfant.
Il m'a dit non, c'est pas possible que parce que chez eux, si les grands enfants n'ont pas encore eu des enfants, c'est pas le petit qui va avoir en premier. Donc on a quand même interrompu la grossesse. Tellement que j'avais peur, mais je ne voulais pas rester seule dans la grossesse. Et j'ai pris toutes sortes de médicaments, en tout cas pour pouvoir interrompre la grossesse, mais ça n'a pas marché. Et à 5 mois, quand j'ai vu que c'était toujours là, j'ai arrêté de prendre, j'ai gardé la grossesse. Ça m'a pas su au 6e mois.
À 19 ans, Asumu Emira est tombée dans le piège du grand amour qui fait rêver en classe de terminale.
Bon, lui, il m'a fait une proposition que son âge a avancé, il a bien envie d'avoir un enfant, mais ok, on s'est basé sur l'histoire de ses parents qu'on va le faire. C'est là que j'ai pris la grossesse. Mais après 4 mois de grossesse, son comportement a commencé à changer. Concernant l'occupation de l'enfant, il ne s'occupe pas.
Malgré leurs douleurs et souffrances internes, ces jeunes filles n'échappent pas à la pression familiale et sociétale. Goli Loudjesson Blanche en a payé les frais.
On me regardait bizarrement, on me jugeait autrement parce que j'ai arrêté l'école à cause de ça. Le rejet de la famille, bon, ma maman n'a pas apprécié et vu que mon papa n'était plus. Moi, en tout cas, j'étais seule. C'est le papa de l'enfant qui m'a motivée à pouvoir garder jusqu'à... S'il n'avait pas été là, il ne sait pas comment ça allait se passer. Parce que j'avais perdu même le sens même de la vie.
Souvent seule et sans soutien financier, ces jeunes filles s'adonnent à tout genre de petits boulots afin de subvenir aux besoins de leurs enfants. Asumu Emira.
Sincèrement, moi, mes parents voulaient que je retourne à l'école. Mais leur a dit que mais qui va s'occuper de mon enfant? Je vendais mes petits chichis, les biscuits, après du pain. Je faisais du pain pour quelqu'un. Elle me payait. J'en souffrais beaucoup. Je regrettais beaucoup.
Des épreuves de la vie qui font gagner à maturité la plupart d'entre elles. Tizier Grassentich.
Avoir un enfant même hors mariage, là, c'est pas facile. Mais tu sais pas si la personne va te prendre au sérieux ou même tu sais pas si la personne ne va pas te prendre au sérieux. Souvent, là, ils vont te dire toutes sortes de choses pour pouvoir rester avec eux. Ils vont t'enceinter, faire tout, s'occuper de l'enfant et puis arriver à un moment, ils vont te laisser. C'est comme je peux dire à mes jeunes soeurs, elles n'ont qu'à s'abstenir. La solution, toi-même, là, tu cherches ton travail, tu te bats. Le garçon, il va jamais faire mal sur toi.
Le Centre Pro Kids Twin Mother Up a formé à ce jour plus de 170 filles à Abidjan, à l'épée et Yamoussoukro, Aïcha Diara, Abidjan, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Nigeria, de nombreuses femmes victimes d'agressions sexuelles tentent de briser le silence grâce à une émission de radio. Le programme met en lumière les cas de violences basées sur le genre et veut faire tomber les barrières culturelles conservatrices. Dojos, le reportage de Timothy Obiezu, le récit est signé Jacques Aristide.
Fatima n'est pas son vrai nom. Le visage caché, elle dit qu'elle a été violée en avril 2020 alors qu'elle rentrait chez elle après la prière du soir. Elle a été agressée par deux hommes armés.
They had a gun to my head and a knife.
Ils avaient un pistolet pointé à ma tête et un couteau à ma gorge pour me forcer à entrer dans un bâtiment. Ils m'ont violée et ils le faisaient à tour de rôle tout en me poignardant pendant l'acte.
Il menace de la tuer si elle en parle. Et sous l'effet de la peur, elle est restée muette. Un soir toutefois, elle tombe sur une émission de radio où des victimes de violences sexuelles viennent raconter leurs cauchemars. C'est un programme très écouté dans le plateau de Jos. Fatima décide finalement de rompre le silence.
J'ai besoin de votre aide pour faire avancer l'affaire.
L'émission s'intitule Silent Voices, diffusée par la radio locale JFM. Elle est animée par Nanji Nandang. Le programme, dit-elle, atteint environ 100 000 auditeurs chaque semaine. Nandi Nandang a le soutien de la Fédération internationale des femmes juristes. L'organisation à but non lucratif offre des consultations gratuites aux victimes qui interviennent dans l'émission. Pour Mary Izam de cette ONG, il n'est pas facile d'obtenir justice.
Il y a tellement de goulots d'étranglement, lesquels font traîner les choses. Mais notre participation nous apporte beaucoup de percées. Il y a des cas qui sont signalés à la police, mais qui ne reçoivent pas l'attention nécessaire. Mais dès que les gens font appel à nous, ou dès que nous passons à l'antenne, la police accélère le processus.
Partagez avec moi, racontez-moi le problème de violence sexuelle et sexiste que vous avez subi.
Ceux qui ont violenté Fatima n'ont pas encore été condamnés. La Fédération internationale des femmes juristes dit suivre l'affaire. Quant au programme Silent Voices, il continue de donner la parole aux victimes.
Les autorités camerounaises ont érigé des barrières sanitaires autour des fermes avicoles de la ville de Bafoussam, dans l'ouest du pays, après une épidémie de grippe aviaire H5N1 très contagieuse. Une grande quantité d'oiseaux sont morts et les agriculteurs ont été forcés d'abattre des milliers de poulets. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Bafoussam, relaté par Nathalie Barge.
Au marché de Bafoussam, l'association des vendeurs de poulets affirme qu'au moins 1300 volailles ont été envoyées dans les villes du pays mardi, malgré une épidémie de grippe aviaire. Dieudonné Kepse, porte-parole de l'association, dit craindre que leurs poulets soient abattus à cause de l'épidémie à Kongso, un village voisin.
Nos encadreurs du marché nous ont prévenus qu'il faudrait qu'on soit vigilant, parce que le plus souvent, quand il y a un début de grippe aviaire ici à Bafoussam, on fait venir les poulets déjà morts au marché et puis ça contamine la volaille que nous avons sur le marché. Nous sommes tellement inquiets parce que s'il faut revivre les événements il y a cela peut-être 5-10 ans, ça nous met dans beaucoup d'inquiétudes.
Lundi, le gouverneur de la région ouest du Cameroun a déclaré que la grippe aviaire H5N1, hautement pathogène, a causé un grand nombre de décès de poulets dans un élevage de volailles. Jonas Temoua, délégué régional du ministère de l'Élevage.
Lors de la suspicion, une barrière sanitaire a été immédiatement érigée au niveau de ce foyer pour empêcher la sortie de tout produit de cette ferme et également les mouvements à l'extérieur des employés. Cette barrière a été renforcée par les éléments de force de maintien de l'ordre qui sont postés au niveau du foyer 24 heures sur 24. La fluidité de l'approvisionnement de marché en produits avicoles doit être maintenue à travers la détention des résultats négatifs PCR délivrés par le laboratoire national vétérinaire.
Trois aviculteurs de Bafoussam ont dit avoir perdu chacun au moins un millier d'oiseaux à cause du virus ou par abattage. Les autorités affirment que l'épidémie a jusqu'à présent été contenue à Bafoussam et dans les villages environnants. Le ministre camerounais de l'élevage a déclaré que seuls les poulets avec des certificats sanitaires indiquant qu'ils ne sont pas contaminés sont autorisés à être vendus. L'association camerounaise des aviculteurs affirme que le virus H5N1 pourrait avoir été importé via l'alimentation des poulets, ce sur quoi les autorités enquêtent. François Djounou est président de l'association.
J'adresse un message à tous les agriculteurs du Cameroun, qu'ils soient patients et qu'ils soient disciplinés. Si nous tous nous sommes disciplinés, je crois qu'on va juguler très rapidement ces crises et dans un futur très proche, on n'en parlera plus.
La précédente épidémie de grippe aviaire au Cameroun en 2016 a forcé l'abattage de 45 000 poulets et de nombreux producteurs ont perdu leur emploi. Le Cameroun importe des poussins et des œufs à couver du Brésil, premier exportateur mondial de volailles, pour répondre à la demande.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Claire Michel-Joseph, Lionel Runamiragahima et José Le Morissin. Eric Manirakidza a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.